Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mannequin à l'heure de MeToo, épisode 4, Gabrielle.
Gabrielle est petite pour une mannequin. Elle est aussi franco-vietnamienne, rodeuse, ancienne étudiante au studio Berceau. Mais sa vie, ça n'est pas que ça. Engagée, elle distribue des repas bénévolement à New York entre les castings et participe avec sa famille à l'éducation de chiens guides d'aveugles. Bref, on ne la résume pas facilement.
Mon père est vietnamien, donc mais vietnamien du sud, je crois. Je confonds toujours, dans les montagnes. Du coup, ils ne sont pas un vietnamien, mais plus un Native American. Donc, il est beaucoup plus foncé. Et ma mère est française. Du coup, moi, je considère ça comme une chance d'avoir cette double nationalité. Parce que déjà, ça fait qu'on est un peu singulier, on ressemble à personne. Et d'avoir le mix de deux cultures, c'est une chance. En plus, j'ai la chance d'avoir encore tous mes grands-parents. Et de juste le mix des cultures, c'est un cadeau. Souvent, les gens, quand ils me voient, ils ne savent pas de quelle origine. Je peux être, j'ai le droit à tout. Mexique, Brésil.
Est-ce que tu peux me parler justement de ton métier et me raconter peut-être si tu avais une vision de ce métier-là avant de le faire ?
Alors, je fais du mannequinat et avant, j'ai fait des études dans la mode, le studio Berceau. Et j'avais pu faire un stage dans une agence de mannequins IMG. Donc, mon métier, il n'y a pas eu tellement de surprises parce que j'ai vu l'envers du décor. Et donc, je n'ai pas eu tellement de surprises parce que je connaissais l'envers du décor pour avoir été de l'autre côté de la barrière.
Et est-ce que tu peux me raconter ton premier shoot ou ton premier défilé, ta première expérience de mannequin ?
Premier défilé, j'ai eu la chance d'être en exclusivité mondiale pour Louis Vuitton. Donc ça, c'était... c'était assez impressionnant. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne suis pas grande. Donc je pensais que tout ce qui était défilé, tout ça, c'était pas possible. Et ça s'est bien passé. Je n'étais pas du tout stressée, en fait. J'étais plus stressée quand j'étais dans la... En fait, quand on me disait peut-être que tu l'as ou peut-être que tu l'as pas, là j'étais un peu plus stressée. Mais à partir du moment, jusqu'au moment où je marchais pas, je me disais sur le défilé, je me disais calme-toi parce que on sait pas, les annulations c'est assez fréquent. Et c'est vrai que, je me rappelle quand mon agent me disait profite, et je me disais oui, je vais profiter, mais en même temps, je porte juste des vêtements et je marche juste.
Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois une image de toi?
C'est comme si je voyais une autre personne. Les gens pensent parfois qu'on fait les photos par rapport à nous, mais notre image, elle ne nous appartient pas vraiment, parce qu'on va être pris pour incarner quelque chose. Donc, c'est moi que je vois, mais c'est comme si c'était une autre personne, en fait. Souvent, quand on regarde, quand on peut écouter les émissions sur la mode, ils disent par exemple, la femme Louis Vuitton ou la femme Gucci ou Chloé, ça va être un peu un personnage qu'on incarne. Et, je sais que quand je marche, c'est pas que je deviens une autre personne, mais... Je regarde droit devant moi et dans ma tête, c'est pas Gabrielle, c'est la personne qui a besoin d'être là pour ce jour-là, mais c'est pas moi personnellement.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur un shoot ou un défilé ou un job, plus généralement, qu'on te demande de faire quelque chose que t'avais pas envie de faire? Et si oui, comment est-ce que t'as réagi ou comment est-ce que tu penses que tu réagirais dans cette situation?
Je crois que ça est arrivé deux fois. Une fois, c'est parce que clairement, c'était dangereux. Il y avait beaucoup de vent. J'avais une robe Céline avec beaucoup de volants. Et le photographe voulait que je me mette debout sur un rebord de fenêtre sans les mains. J'ai peur du vide. En plus, on était au cinquième étage, quelque chose comme ça. Et juste pour des raisons de sécurité, j'ai dit non. Et le styliste et celui qui s'occupait du magazine étaient là. Non, mais dis non. C'était une journée un peu compliquée. Du coup, je ne l'ai pas fait. Et je crois que le photographe a compris. Enfin, après, il ne parlait pas français, donc c'était un peu compliqué. Mais de toute façon, je n'allais pas mourir pour la mode. J'aime mon métier, mais j'ai des limites. Et la deuxième fois, c'était on m'a demandé de faire du... On avait fait une photo, en fait, qu'ils aimaient bien, mais ils voulaient la refaire nue. Et j'ai aucun problème avec mon corps, enfin, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouvais que c'était gratuit, en fait, et que ça apportait rien à la photo. Du coup, j'ai dit, bah non, enfin, si c'est juste pour faire du nu pour du nu, moi, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai demandé à la personne, est-ce que tu penses vraiment que ça va apporter quelque chose en plus? Et là, un temps d'arrêt, il a fait, ouais, non, c'est vrai. Et du coup, on est passé à autre chose. Je me dis toujours, avant de faire quelque chose, est-ce que, une fois que la journée va être finie, tu vas rentrer chez toi et tu vas penser à autre chose, ou est-ce que tu vas repenser à ce que tu as fait? Et si je me dis peut-être que je ne vais pas dormir ou que je vais y penser ou que je vais faire des rêves étranges après, peut-être que là, il ne faut pas que je le fasse. Et je dis non, mais c'est arrivé que ces deux fois-là. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que sur un shoot, il y a tellement de gens. Je pense que ça peut arriver très vite. On peut te demander de faire quelque chose, même si on est là pour la journée et que c'est pour les attentes du client, il faut quand même penser à soi d'abord. Et de toute façon, je pense que si on n'est pas à l'aise, la photo ne sera pas... Enfin, ce sera pas bon. À l'école, on faisait du croquis de nu. Et le seul jour où on n'a pas réussi à dessiner une personne, c'est quand la personne qui posait n'était pas à l'aise. C'était une des premières fois. Donc je pense que ça, faut que tout le monde soit serein.
Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes études? Pourquoi tu as fait ces études-là?
J'ai toujours aimé broder, tricoter, faire des poupées avec des chiffons, des trucs comme ça, mais... La mode en elle-même, j'y connaissais rien. Et après le lycée, j'avais commencé une école d'ingénieur, mais c'est pas mon truc. J'avais besoin de mettre la main à la pâte. Et j'ai fait une sorte de bilan. La dame qui était psychologue, conseillère, la seule efficace que j'ai vue, parce que j'en ai vu d'autres avant, et franchement, c'est pas au point. Le système scolaire, faut que vous fassiez quelque chose. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas quelque chose de créatif, la mode? Et j'ai trouvé le Studio Berceau, l'Institut français de la mode. Très vite, je me suis rendu compte que le Studio Berceau, c'était le plus court, donc le moins cher. Et j'ai eu un entretien avec la directrice Marie Ruki. C'est vrai que j'y suis allée, j'y connaissais rien. Je me rappelle, j'avais acheté un L... avant d'y aller dans le train, et j'ai vu Chanel et Dior, les pubs, et du coup, elle me dit « Alors, quelles sont vos marques préférées ?» Moi, je dis « Chanel, Dior, d'accord, très bien. » Il m'avait demandé de faire un croquis, et je sais pas pourquoi, j'avais dessiné un body transparent à plume ouverte dans le dos, je sais pas pourquoi ils m'ont pris. Mais du coup, j'ai pu passer ces 2 ans, et ils apprennent plein de choses, la broderie, le tissage, la broderie sur perles, comment dessiner, monter des collections, et j'ai découvert tout un monde, et que c'était pas que des paillettes. Et qu'on n'était pas obligé de s'habiller tout en Chanel ou tout en Dior pour faire partie de ce milieu-là. Et c'est de la création. Enfin, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas comment je vais faire pour trouver ma place dans ce milieu-là.
Et comment est-ce que tu vis le fait d'être à la fois créatrice et d'être au service d'autres créatifs, en fait?
Je me considère quand même très chanceuse parce que ça me permet de voir l'envers du décor quand je suis au travail, ne serait-ce qu'à Louis Vuitton ou à Chloé, surtout, j'ai eu l'occasion de faire des looks. Et là, il ramène toutes les pièces vintage et il les mettait sur moi. Et de voir l'envers des vêtements, la façon dont il travaille, tous les moodboards avec tous les papiers, les inspirations, les choses. Et c'est le travail des autres. Voir aussi, je pense qu'on s'inspire tous les uns des autres. Et je me rappelle, nous avait passé un documentaire à l'école, ça s'appelait sur Diana Vreeland. Elle disait « L'œil doit voyager ». Et en fait, c'est exactement ça. C'est quand tu vois des choses, c'est ton cerveau qui se nourrit. Donc là, il faut que tout se décante et après, j'en ferai quelque chose. Mais j'ai besoin de continuer à broder, à tricoter, à griffonner, juste pour pas trop attendre. Enfin, ça, j'en parlais avec les filles, mais c'est vrai que si on fait du mannequinat à temps plein... Après, c'est pas général, mais il y a beaucoup de filles qui disent que si elles font rien à côté, on a l'impression de devenir un peu une plante verte, alors qu'on l'est pas du tout, mais il faut juste trouver la... balance, l'équilibre, et c'est vrai que tout le monde fait quelque chose à côté, des études ou des filles qui montrent pas forcément, mais qui dessinent, qui font des trucs artistiques, et c'est assez impressionnant de voir qu'on a tous un peu notre petit jardin secret, pour pas devenir trop fou dans la tente des fois.
Mais je crois que t'es aussi assez impliquée dans des activités bénévoles. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça? Là aujourd'hui, donc les gens ne verront pas, mais on est avec une élève chien guide, par exemple.
Associatif, j'ai commencé vraiment à le faire la première fois que j'étais à New York. J'étais allée à la Fashion Week et en fait, j'ai fait aucun défilé. Et du coup, j'avais beaucoup de temps libre et j'ai découvert une application et ça permettait d'aller faire... on pouvait promener des chiens, cuisiner pour les sans-abri ou les plus démunis. Et j'ai commencé à le faire. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien à moi d'abord. On ne va pas se cacher les choses. En même temps, c'est dur parce que ça fait le grand écart. Je veux dire, tu vas passer un casting dans un building où tu vas avoir une grande table avec plein de trucs à manger et trop. Et après, tu vas cuisiner pour les sans-abri qui n'ont rien. Et tu cuisines avec des restes qui ont été balancés par des magasins. C'est dur pour moi parce que c'est contradictoire. Et souvent, quand je le fais, après, je suis très en colère. Enfin, je vais dire, mais ça sert à rien. Si la chaussette, elle est trop bleue, c'est pas grave, on se calme. Et j'aimerais lier les deux, mais je sais pas comment faire. Et je dis à New York, mais il y a plein de choses. Enfin, là, on a Voltaire, mais on prend la ligne 9, on va à Montreuil. Il y a des bidonvilles à Paris, hein. Les gens, ils le savent pas, mais il y a plein de choses partout à faire. J'essaie de m'impliquer autant que je peux, même si c'est pas facile.
Dans le prochain et dernier épisode, découvrez le témoignage d'Emmanuel.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.